Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur RFI. C'est le journal minuit à Jérusalem, 23h à Paris.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité internationale, un soldat d'élite israélo-américain libéré par le Hamas sans contrepartie directe après des négociations entre le mouvement islamiste palestinien et les États-Unis. Donald Trump, lui, arrive en Arabie Saoudite dans quelques heures pour une tournée dans les pays du Golfe. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, annonce déposer les armes et dissoudre sa forme actuelle. La guerre qui opposait ses guerrieros à la Turquie a fait près de 40 000 morts. Et puis arrivera-t-il à relever l'équipe de foot brésilienne, l'Italien Carlo Ancelotti, nommé sélectionneur de la CELAO jusqu'au Mondial 2026. Edan Alexander, 21 ans, soldat d'une unité d'élite de l'armée israélienne capturé le 7 octobre 2023, a retrouvé la liberté de retour en Israël auprès de sa famille. Pour le moment, il est à l'hôpital pour des soins médicaux. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette libération est le résultat d'une combinaison gagnante, je cite, alliant pression militaire d'Israël et pression politique exercée par le président américain à Jérusalem, Michel Paul.
Idan Alexander est libre après 584 jours, faible, mais sur ses jambes et en tenue civile. Le soldat américano-israélien a été libéré par le Hamas, une libération beaucoup plus discrète que lors des précédents accords, sans le cérémonial habituel du Hamas. Et comme dans le passé, l'ex-otage a été remis à la Croix-Rouge et ensuite convoyé vers une unité de l'armée israélienne. Première étape en Israël même, la base militaire de Re'im à la frontière avec Gaza, avec une première rencontre avec les membres de sa famille et aussi les émissaires américains Steve Witkoff et Adam Boller. Et par la suite, un hôpital de Tel Aviv pour une série d'examens médicaux. Il faut le préciser, tout cela se produit au-dessus de la tête d'Israël, si l'on peut dire. C'est le fruit de négociations directes entre les États-Unis et le Hamas. Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le président américain, il l'a remercié et il s'est engagé à envoyer dès demain une équipe de négociateurs à Doha pour tenter de relancer les pourparlers pour la libération des autres otages. C'est bien sûr ce que souhaite le Forum des familles d'otages. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et puis dans le même temps, de nombreuses stars du cinéma mondial, dont Pedro Almodóvar ou Richard Gere, dénoncent dans une tribune le silence du monde de la culture face au génocide à Gaza. Fin de citation. Donald Trump, lui, est dans l'avion au moment où je vous parle. Il a décollé ce lundi direction l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Il espère de nombreux contrats économiques, mais sa première visite dans la région depuis sa réélection sera aussi dominée par les conflits en cours dans le monde. D'ailleurs, il risque de s'inviter jeudi dans la possible rencontre Volodymyr Zelensky-Vladimir Poutine à Istanbul pour parler directement entre Russes et Ukrainiens doivent avoir lieu. Pour le rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend de pied ferme son homologue russe Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre. Moscou s'est refusé à dévoiler la composition de sa délégation pour le moment. En attendant, Donald Trump encore a annoncé son intention de faire baisser de plus de moitié le prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis, pays où ils sont généralement près de 3 fois plus élevés qu'ailleurs. Donald Trump s'est engagé à combler cet écart sans pour autant dévoiler ses plans pour parvenir à une telle réduction. Pour le professeur d'économie Thomas Rapt, les pays européens pourraient subir de plein fouet les conséquences de cette annonce.
Le marché américain en termes de business, c'est 40% du business mondial, donc l'impact sera considérable pour les entreprises pharmaceutiques. Et les marges très importantes qui étaient réalisées aux États-Unis permettaient aux laboratoires pharmaceutiques d'accepter des marges moins importantes en Europe, parce que les laboratoires pharmaceutiques avaient cette capacité d'accéder à un marché américain qui était extrêmement porteur. Si les conditions de l'accès au marché se dégradent fortement aux États-Unis, comme ça va vraisemblablement être le cas, s'il y a des baisses importantes du prix des médicaments aux États-Unis, il y aura moins de marge de négociation pour les labos pharmaceutiques en Europe. Et donc, il y a beaucoup d'innovations qui vont arriver sur le marché, en particulier sur le marché européen. Beaucoup de lancements de nouvelles thérapies extrêmement innovantes. C'est sur ces innovations-là que les négociations de prix vont être les plus difficiles. Et donc, je pense que ce qui est à craindre, c'est que l'accès à ces innovations soit retardé dans certains pays.
Propos recueillis par Anne Verdaguer du service économie de RFI. Le premier ministre indien Narendra Modi prévient le Pakistan. Toute nouvelle attaque terroriste aura sa réponse ferme. Tension diplomatique toujours vive entre les deux pays, deux jours après le cessez-le-feu qui a mis fin à la confrontation la plus grave entre Inde et Pakistan depuis des décennies. Le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, annonce ce lundi sa dissolution sous sa forme actuelle. Il met fin à 4 décennies de lutte armée contre l'État turc. Dans un communiqué, le PKK affirme avoir accompli sa mission historique. La question kurde peut désormais, selon eux, être résolue par une politique démocratique. Décision prise dans un congrès qui s'est tenu la semaine dernière au fin fond d'un tunnel dans le nord de l'Irak, plusieurs mètres sous terre. Tout ça pour échapper aux bombardements turcs qui continuent sur les positions du PKK. Pour Ahmet İnsel, politologue spécialiste de la Turquie, cette déclaration annonce un changement de manière dans la cause kurde.
La nouvelle ligne politique, c'est, en Turquie en tout cas, le combat démocratique pour la création d'une situation d'égalité citoyenne, et particulièrement la reconnaissance de la spécificité de la langue kurde et de l'enseignement et de la pratique de la langue. L'indépendance, c'était déjà depuis très longtemps abandonné comme concept, mais par contre, des revendications d'une démocratisation municipale, c'est-à-dire que les maires kurdes élus démocratiquement à chaque élection depuis 2019 sont, vous savez, dessaisis, depuis 2014, sont dessaisis par le pouvoir et on nomme à la place des administrateurs d'État. Donc du coup, ce genre de pratique, évidemment, ne peut pas permettre la résolution démocratique, pacifique du problème kurde. Donc effectivement, le combat sera sur le terrain de la démocratisation de la Turquie en même temps.
Le Kenya sollicite l'aide de la République dominicaine pour mieux agir en Haïti. Nairobi demande à Saint-Domingue un soutien accru en matière de renseignement. Le pays d'Afrique peine, c'est peu de le dire, à contenir la violence des gangs en Haïti. 1 à 2500 soldats kényans sont déployés dans une mission soutenue par la France, le Canada et les États-Unis. C'était dans l'air depuis un moment. La Fédération brésilienne de football l'a officialisé ce lundi. L'actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est le nouveau sélectionneur de la Seleção, l'équipe de foot nationale du Brésil. Un mariage de prestige, mais la tâche est ardue. L'Italien a pour mission de relancer une équipe en perte de vitesse ces dernières années. Thomas de Saint-Léger.
Carlo Ancelotti devient le 4e sélectionneur étranger de la Seleção, le premier depuis 60 ans, et pourtant, il y a dans cette rencontre une évidence. Comme si c'était écrit, l'entraîneur, 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, va lier son destin à celui de l'équipe nationale aux 5 étoiles de champion du monde. Si ce mariage annoncé se conclut, c'est aussi que les conditions sont réunies. À 65 ans, l'Italien arrive en fin de cycle au Real Madrid. Il a connu les meilleurs clubs d'Europe, gagné les 5 grands championnats du continent, mais jamais encore Don Carlo n'avait pris les rênes d'une sélection. Au Brésil, le défi est taillé pour lui. Il faut redonner de l'éclat à une équipe au prestige abîmé, redonner des titres aussi à cette Seleção dont le dernier trophée, la Copa América, remonte à 2019. Ces dernières années, plusieurs entraîneurs, intérimaires notamment, s'étaient succédés sur le banc brésilien sans succès. Dans un contexte de baisse du niveau global des joueurs locaux, Ancelotti va devoir rapidement trouver la formule. Son premier match est prévu le 5 juin prochain contre l'Équateur dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Coupe du Monde prévue dans un an déjà.
Thomas de Saint-Léger. Et puis quoi de mieux que de regarder du basket commenté par Michael Jordan. La légende américaine rejoint le diffuseur NBC en tant que contributeur spécial pour la prochaine saison de NBA. Plus de 22 millions de spectateurs à travers le monde regardent régulièrement le tournoi de basket américain. Sarcophages, bijoux et fragments de temples antiques, l'Égypte annonce récupérer 25 pièces d'antiquités rares qui se trouvaient jusqu'ici aux États-Unis. Artefacts dont on ne sait pas comment ils sont arrivés sur le sol américain. De nombreuses pièces ont été néanmoins pillées durant le printemps arabe de 2011. C'est la fin de ce journal, merci de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans 50 minutes, vous retrouverez Christophe Pagé.